qui, pour lui, représentait le mieux la paix. Pour certains, c'était un lac de montagne paisible. Alors, je ne vais pas vous faire rêver pour ceux qui voient la montagne, mais rappelez-vous, c'est lac paisible. Pour d'autres, c'est un beau coucher de soleil. Moi, j'aime bien les couchers de soleil. Vous voyez, c'est paisible, hein. Il s'en va tout doucement. Pour d'autres encore, une vaste prairie verdoyante avec des fleurs et des arbres. Vous aimez ça aussi? C'est joli, hein? Très paisible, surtout quand il y a le vent qui balaye, hein, tout ça, et c'est très 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 léger. Et voilà que le jury s'est réuni et un seul tableau dénoté au milieu de tous ces paysages paisibles. Il s'agissait au contraire d'un paysage très tourmenté, avec une cascade dont les eaux se fracassaient sur des rochers. Au milieu de tout cela, il y a une petite fille dont les traits ne laissaient paraître aucune inquiétude. Et c'est ce tableau qui fut retenu et qui fit remporter le premier prix à son peintre. Voyez-vous, être paisible dans un endroit paisible, je dirais que c'est facile. C'est pas forcément facile si on est dans l'inquiétude, mais c'est quand même facile parce que tout vous pousse à être paisible, hein. Très souvent, quand il y a des bagarres entre mari et femme, bon, je vous rassure, ça n'existe pas ici, hein, mais bon, quand ça arrive ailleurs, c'est toujours la faute de l'autre. Voilà. Bah oui, c'est lui qui a commencé, c'est ceci, cela, voilà. Voyez-vous, mais quand c'est paisible, eh bien, c'est facile, parce que vous rentrez dans la paix qui vous entoure. Mais quand les choses vont mal, alors là, c'est autre chose. Alors là, ça pousse chacun dans ses retranchements. Et la vraie paix, celle dont je vous parlais ce matin, ça consiste à rester en paix malgré tout cet entourage tumultueux. C'est vrai que dimanche dernier, j'ai parlé avec Sylvestre de la paix et ça m'a vraiment travaillé toute la semaine. J'ai dit, c'est vrai que ce message de paix est très 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 important pour nous. Je crois qu'il faut être honnête et dire que quelle est la personne, hein, qui, dans la tourmente, arrive de rester dans la paix. Je crois personne. Vraiment. Il y en a qui y arrivent mieux que d'autres, mais on est tous sensibles à cette tension qui existe dans l'environnement dans lequel nous sommes pour perdre cette paix, parfois la transformer, hein. Parfois, on reste dans une paix apparente, mais on est tellement électrique que l'autre le ressent. Voyez, donc, c'est pas la vraie paix. La vraie paix, c'est celle qui communique la paix. Pas celle qui est simplement dans la paix. Celle qui communique à l'autre la paix. Je crois qu'on est tous d'accord qu'on a besoin d'une paix surnaturelle. Hello? C'est pour ça qu'on est là, en tant que chrétien. Les gens du monde pourraient connaître cette paix. Regardez aujourd'hui, il y a des guerres partout. Vous voyez, même si vous prenez l'avion, vous n'êtes pas sûr d'arriver, hein. C'est un missile qui passe, c'est fini. Et vous, on est en guerre, hein, partout sur la planète. Des conflits, des tensions. Dans quel endroit vont-on aller? Moyen-Orient, il y a la guerre. En Ukraine, il y a la guerre. Il y a la guerre partout. Et c'est le lot des humains, c'est de se faire la guerre, c'est de se dominer l'un l'autre, c'est le résultat de la chute. Mais nous, chrétiens, nous avons une cité où il y a la paix. C'est laquelle? Pardon? Qu'est-ce qui a parlé là? Ah, Julie, j'ai entendu un bruit, mais je savais pas de ça. Qu'est-ce que tu as dit? La nouvelle Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire quoi? Ouais. Shalom. Shalem. C'est dans hébreu, je l'ai juste recherché avant de venir, là, dans Genèse. hein, Genèse, au chapitre 14, où il est dit que après qu'Abraham fut revenu vainqueur des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome parti à sa rencontre, et Melchisédek, roi de Salem. Et Salem, c'est Shalem. C'est en grec Salem, mais en hébreu Shalem. Et Shalem, c'est la paix. Melchisédek, qui est une figure de Christ, qui anticipe la venue du Christ, est le roi de paix. Le roi d'une ville dans laquelle il y a la paix. Ce n'est pas le cas aujourd'hui de Jérusalem. Pour ça, à juste titre, cherche ton prénom, Julie, a parlé de la nouvelle Jérusalem. Il y a un autre terme pour parler de la nouvelle Jérusalem, c'est quoi ? La Jérusalem, quel est le qualificatif ? Céleste. Jérusalem céleste. Tiens, Charles, tu peux juste me rapprocher le paperboard, ça m'aidera à écrire dessus. La Jérusalem céleste. Il y a une Jérusalem céleste. Dans cette Jérusalem, il y a une paix parfaite. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des tensions en Dieu? Non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, qu'il n'y a pas de tension en Dieu? Il n'y a pas de conflit dans la divinité. Il y a l'unité entre qui et qui. Parce que quand on dit unité, il faut peut-être plusieurs. Hein. Pardon ? Voilà. C'est ce qu'on appelle la Trinité divine que les chrétiens ont intitulée la Trinité, qui n'existe pas dans la Bible. Mais quand on voit la Bible de la Genèse et l'Apocalypse, on voit cette interaction entre ces trois personnes qui forment la divinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Donc ces trois personnes, eh bien, ils forment cette Jérusalem, cette ville de paix. Est-ce qu'à votre avis, il y a une autre Jérusalem qui existe? Est-ce qu'il y a une autre Jérusalem? Pourquoi vous êtes muet? Ça vous scotche à votre chaise? Est-ce qu'il y a une autre Jérusalem? Oui? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Non? Ma terrestre. C'est Galates, Hébreux, tout ça qui en parle. La Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Il y a deux Jérusalem. Il y a deux réalités. Il y a une réalité céleste et une réalité terrestre. Vous voyez, la Jérusalem terrestre, il n'y a pas de paix. Elle est coupée en deux en ce moment. D'ailleurs, il y a rarement eu de la paix. Jérusalem terrestre a toujours été le conflit, en conflit avec un tas de choses. Et c'est le lot des humains d'être en conflit à cause du péché. Le péché attire l'attention, attire ce conflit, hein, entre les humains. Donc il y a la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Entre autres, c'est un livre qui a été écrit. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous écrit des livres, mais c'est un livre qui a été écrit sur 30 ans. Si vous écrivez un livre sur 30 ans, tous les ans, vous écrivez un tome. Vous voyez ? Pas mal, ça. Ah ben, Saint Augustin l'a fait. C'est le tome qu'il a écrit, c'est sur ces deux Jérusalem, Jérusalem céleste, Jérusalem terrestre. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus que ce que dit la Bible, vous lisez Saint Augustin. Je vous aide, bon courage. Hein. Les vacances ne vous suffiront pas. Hein. C'est une somme théologique qui a marqué tout le christianisme aujourd'hui sur Jérusalem. Jérusalem. Et le but de Dieu, quand il a instauré la Jérusalem terrestre, c'était quoi? Quand Dieu a demandé à son peuple Israël qui était en Égypte, en esclavage, et qui lui a donné le pays de Canaan, et qui lui a demandé d'établir le temple à Jérusalem. C'était quoi le but? C'était quoi le but? Pourquoi Dieu a demandé ça? Pardon? Oui, un lieu, le siège de sa présence. Le siège sur la terre. Parce que le siège est dans le ciel, le siège céleste, vous êtes d'accord? Mais Dieu voulait un siège sur la terre. Il voulait siéger au milieu de son peuple. Amen. C'était ça le but. Et quand Israël s'est détaché de Juda, vous voyez, et que, bien sûr, les rois savaient très bien que s'ils allaient laisser aller leur peuple à Jérusalem tous les ans, un jour, leur royauté allait être fragilisée et mise en cause. Donc, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé d'autres lieux de culte. Voyez-vous, ça commence comme ça. Le pouvoir, parce qu'ils aiment bien le pouvoir, le pouvoir aime le pouvoir. Et donc, ils voulaient garder le pouvoir, et donc ils ont inventé d'autres lieux de culte, Bethel, Dan, pour y mettre le veau d'or, imaginez. C'est quand même incroyable, ça. Israël installe le veau d'or officiellement comme peuple de Dieu. Quoi. C'est ahurissant. Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, c'est pas possible. Ben oui, parce qu'ils ne voulaient pas aller à Jérusalem. Or, c'est le seul endroit, c'est la ville de paix. Si on veut la paix, il faut aller dans une ville où il y a la paix. Vous êtes d'accord? Si vous voulez aller dans une ville où il y a la guerre, ben prenez l'avion, passez au-dessus de l'Ukraine. Et vous verrez ce qui se passe. Mais si vous voulez aller dans un lieu de paix, il faut aller là où il y a la paix. Or, à Jérusalem, il y a un siège, c'est le temple. Dans le temple, il y a la présence de Dieu, il y a la paix. Et ben, allez adorer là. Voyez-vous, c'était ça l'objectif que Dieu avait donné à son peuple. Aujourd'hui, bien sûr, la Jérusalem terrestre, c'est l'Église. Mais est-ce que dans l'Église, il y a la paix? On grince un peu des dents. Hein. Mais il devrait y avoir la paix. Et donc, c'est le sujet de ce matin, c'est vous aider à comprendre comment amener cette paix dans l'Église, si elle n'y est pas. Hein. Heureusement, le frère m'a rassuré, il m'a dit... Dans cette église, il y a la paix. J'ai dit, merci Seigneur. Mais je lui ai dit que ce n'est pas le hasard non plus. Hein, c'est qu'on y veille. Et c'est pas. Voilà. C'est aussi parce qu'on a une stratégie pour garder la paix. Tout d'abord, la paix surnaturelle. Je vais vous parler de la paix de la Jérusalem céleste. Dans le Nouveau Testament, Dieu est appelé 8 fois le Dieu de paix. Je vous cite les versets. Romains chapitre 15, verset 33. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Dans Romains 16, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Pas ses pieds. De toute façon, il est déjà écrasé sous ses pieds depuis longtemps, mais sous vos pieds. Le problème, c'est que certains chrétiens, quand ils sont immatures, ils prennent des versets comme ça et puis ils tapent. Ils mettent Satan sous leurs pieds, hein, dans les combats spirituels. C'est la dernière chose à faire. Dernière chose à faire. C'est une façon mauvaise de comprendre ce texte. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous. Ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dans Philippiens 4, 9, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Voyez-vous, la pratique de la parole amène la paix. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme, corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Thessaloniciens 3, 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous. Dans Hébreux verset 13, chapitre 13, verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, etc. Donc le Dieu de paix. Jésus lui-même, dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6, est appelé Prince de paix. Prince de la paix. Prince de la Jérusalem céleste et terrestre. Mais le terrestre, on y reviendra, c'est plus difficile. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans le Nouveau Testament aussi, 28 fois, l'expression que la paix soit avec vous, ou qu'elle vous soit donnée, ou multipliée, est utilisée. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons tourmentés dans nos âmes par diverses situations. Il ne veut pas que nous soyons sous tension. La guerre, c'est la tension permanente. C'est une tension qui n'arrive pas à se résoudre et on se tape dessus pour que le plus fort puisse taper sur le plus faible et qu'il l'écrase. C'est ça le résultat de la guerre. La paix, c'est pas de tension. C'est-à-dire on accepte l'autre comme il est, on lui laisse la liberté comme l'autre laisse la liberté, c'est cette capacité à vivre ensemble dans la sérénité, en respectant l'autre, même s'il nous tape sur le système. Mais sachant que si on le fait dans l'intersoumission, comme c'est donné, l'un va changer et l'autre va changer. C'est ce que la Bible dit quand le fer aiguise le fer. Comme ça qu'on s'affûte, on devient plus fort. Jésus est notre berger. Il veut conduire notre cœur dans des lieux paisibles. Rappelez-vous le psaume 23. Il veut reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il est encore dit des brebis dans Ézéchiel 34 qu'elles reposeront dans un parc agréable. Et dans Exode 33, 14, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai mon repos. Mon repos. Amen. L'Église doit connaître le repos, la paix, pour être un lieu où Dieu demeure. Dieu ne peut pas demeurer, le Saint-Esprit en tout cas, qui est envoyé par Dieu, ne peut pas demeurer dans un lieu où il n'y a pas de repos. Parce que c'est la nature, sa nature, c'est d'être dans le repos. La Jérusalem céleste, c'est le repos. Vous êtes d'accord? C'est la paix. Comment voulez-vous que si la Jérusalem terrestre, donc l'Église qui siège, ne représente pas la Jérusalem céleste, eh bien le Saint-Esprit s'en va. Le Saint-Esprit s'en va. Donc si nous voulons que le Saint-Esprit demeure avec nous, il faut que nous établissions la paix. Alors la paix dans la tourmente. Comment est-ce qu'on peut être dans la paix quand on est dans une véritable fournaise? Eh bien, quelques exemples. Anne, dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, qui était la seconde épouse d'Elkana. Son autre épouse, Pénina, avait beaucoup d'enfants, mais Anne était stérile et n'en avait aucun. C'était bien sûr un drame pour sa vie et elle était dans une tristesse extrême, extrême. Son âme était tourmentée par cela et elle avait de l'amertume. Elle se rendit donc un jour au temple pour prier et exposer sa peine à Dieu. Et Élie, qui était là, le souverain sacrificateur, la voit. Et celle-ci lui raconte son malheur. Et qu'est-ce que dit le serviteur de Dieu après cette intervention entre elle et lui? Elle lui dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Va en paix. Voyez-vous, c'était une parole de Dieu. Si vous n'avez pas le discernement préalablement, en tout cas, il a donné une parole venant de Dieu parce qu'il a dit, va en paix. Le Seigneur t'a entendu. Dans la tristesse, dans la tourmente, Dieu veut nous donner sa paix. Deuxième exemple, il y a aura bien d'autres, hein, c'est Naaman. Naaman qui était un général de l'armée syrienne, donc pas du tout israélite, était fort, vaillant, un héros national, pour avoir remporté de nombreuses batailles. C'était un guerrier, hein, un homme très très puissant, très fort sur le plan physique. Mais il fut frappé par une grave maladie, la lèpre. Cela signifiait la fin de sa carrière. Imaginez un général comme ça, brillant, la fin de sa carrière. Militaire, humiliation publique, et même son arrêt de mort, puisqu'il devait aller dans un camp où on ne pouvait pas le toucher. Imaginez son âme qui est tourmentée par cette situation. Alors il est invité par l'une de ses servantes à aller voir Élisée, l'homme de Dieu, le prophète d'Israël. Et elle lui dit, il peut te guérir. Il peut te guérir. Donc Naaman alla trouver Élisée en passant par le roi, mais ça c'est une autre histoire. Il fit ce qu'il lui dit. Élisée, il fut guéri de sa lèpre. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'était pas dans la paix. Car autre chose le tourmentait. Il était obligé de par ses fonctions, donc auprès du roi, de se prosterner devant une idole dans un temple quand son roi faisait de même. Et cela le tourmentait. Et il en parla à Élisée. Et voilà qu'est-ce qu'il a répondu, Jean-Claude, cet homme. Va en paix. Bah, c'est le message, alors c'est facile. Voilà. Tu dis va en paix et t'as gagné. Va en paix. Voyez-vous, ces simples mots sont des clés. Parfois, nous, on cherche à expliquer à des chrétiens des choses. Bien sûr, on voit toute la situation, tout ça, on essaie d'expliquer tout ça. Eh bien, l'homme de Dieu dit, va en paix. Parce que dans la paix, il y a tout. Il y a la recette, donc la manière de faire, et le résultat. Vous voyez, il y a tout. Va en paix, parce que c'est Dieu qui l'a donné. Autre exemple, les apôtres. Les apôtres de Jésus. Après que celui-ci ait été crucifié, donc dans Jean 20, 19-21, le soir de ce jour, je lis, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Leur maître n'était plus avec eux, mis à mort par les chefs religieux, et ils avaient tout simplement peur qu'il leur arrive la même chose. Mais le récit continue. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et Jésus leur redit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voyez-vous, je vous envoie pour procurer la paix. Jésus n'a pas voulu que ses disciples restent dans un état de crainte et d'insécurité. Il leur dit par deux fois, la paix soit avec vous. Ce n'est pas simplement une formule de politesse que Jésus a dit. C'est une parole profonde qui était destinée à donner la paix aux disciples, à transférer sa paix à lui sur celle des disciples, qui avait besoin d'entendre par deux fois ce message pour que ça pénètre dans leur cœur et que ça produise réellement la paix. Vous voyez, parfois, la parole de Dieu, on a beau l'entendre, elle passe un peu comme la pluie, l'eau passe sur la plume du canard, comme on dit, hein, et elle ne pénètre pas. Et on a besoin de laisser pénétrer, pour ça méditer la parole, une façon de la laisser pénétrer. Donc rien que ces trois exemples, vous voyez que les mouvements de l'âme intérieure, l'inquiétude, l'insécurité, la crainte, eh bien, donnent lieu à un état d'agitation. Et le Seigneur veut donner la paix. Je bifurque sur un autre message que je ne vais pas vous donner, mais c'est un autre message. Comment connaître la volonté de Dieu? Tous les chrétiens se posent cette question. Eh bien, un des critères, c'est la paix. Si vous n'êtes pas dans la paix, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas discerner la volonté de Dieu, je n'étais pas dans la paix. Et ça veut dire que j'étais agité. Simplement, vous savez, c'est un peu comme quand vous êtes au bord d'un lac très, très paisible. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, il n'y a absolument pas une ride à rien, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Et parfois, vous demandez s'il y a de l'eau, parce que vous avez juste le reflet, mais vous voyez juste comme un miroir. Puis vous jetez un caillou, et il y a les ondes qui se produisent, un tout petit caillou, vous voyez. Et bien c'est ça, c'est que si nous ne sommes pas dans la paix, si nous n'avons pas ce lac qui est complètement paisible, nous ne pouvons pas entendre la parole de Dieu, la volonté de Dieu, parce qu'elle se manifeste souvent par un bruit doux et léger. Le bruit du vent qui passe. Vous voyez, et comment voulez-vous entendre ça si vous avez un petit. Si vous avez des remous là-dedans, et vous envoyez un petit caillou, vous voyez rien, puisque le petit caillou, il faut que le lac soit tranquille. Vous voyez le message? Vous voyez le message? C'est tout un message, mais je ne le fais pas ce matin, pour connaître la volonté de Dieu. La paix. La paix. Nous avons un autre exemple qui illustre un petit peu autre chose, c'est la maturité du chrétien. Quand un chrétien n'est pas mature, il n'est pas dans la paix. C'est pour ça que notre vision de l'Église, c'est d'amener des gens à la maturité. Parce qu'on est tellement sollicité dans la vie qu'effectivement on est troublé tout le temps. Et un chrétien immature, qui n'a pas atteint la maturité, eh bien, il n'a pas assez d'expérience, donc du coup il sait des choses. Il entend le pasteur, il entend la journée, enfin le mot du jour, et sur son iPhone, iPad, etc., tout ce que vous voulez. L'information, ça ne suffit pas pour faire un chrétien. La communication ne suffit pas. Il faut s'approprier les paroles pour qu'elles puissent rentrer en nous-mêmes. Et donc, un chrétien qui n'est pas encore atteint la maturité, il va complètement être troublé. Il n'est pas dans la paix. Nous voyons dans le livre de Daniel un exemple qui relate l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Ils étaient déportés à Babylone, donc ils n'étaient pas chez eux. Ils étaient dans un endroit hostile. Et le roi Nabuchodonosor a fait ériger cette énorme statue à Babylone et il a fait convoquer tous les gens importants du royaume pour son inauguration. Et ce qu'il disait au son de la trompette, tout le monde devait se prosterner devant la statue et l'adorer. Voilà, c'est un ordre. Sinon, c'est la peine de mort. Il avait dit, si quelqu'un ne le ferait pas, il serait jeté dans la fournaise qui était déjà préparée. Vous voyez, tout était prêt, la statue, la fournaise, et le moyen d'être tué. Et les trois compagnons de Daniel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé. Mettez-vous à leur place. Est-ce que vous auriez refusé? Mettez-vous à leur place. Mettez-vous à leur place. Voilà, la question ce matin, mets-toi à la place des compagnons. Est-ce que tu aurais refusé? C'est toute la question de la paix. Pourquoi ont-ils pu refuser, à votre avis? Peut-être un tas de raisons, mais une raison principale. Pourquoi ont-ils pu refuser? Alors? Vous avez la paix. Eh oui. Ce matin, c'est facile, hein, la réponse. La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Les pensées, ça s'agite hein, quand c'est comme ça. Waouh, ma femme, mes gosses, qu'est-ce qui se passe? C'est normal, c'est légitime. Hein? Ok, c'est pour ça que la réponse, vous avez été honnête, vous n'avez pas dit tout de suite oui. Parce que vous êtes agité et troublé, et c'est normal, vous n'êtes pas encore mature au point de dire, moi, je vais à l'échafaud, pas de problème. Non, il faut être honnête. Mais ces compagnons-là, ces trois compagnons, ils l'ont fait, non pas parce que c'était des kamikazes, hein, c'était pas des Japonais pendant la guerre qui voulaient donner leur vie à la patrie, non. C'était pas des kamikazes, c'est qu'ils avaient la paix. Ils savaient, et on le sait pourquoi, parce qu'il suffit de lire le texte, hein, la manière dont ils ont répondu, etc. Ils ont répondu avec sagesse, avec maturité. Une grande sagesse qui a fait que, dans la paix, ils savaient que Dieu allait les garder. Ils ne connaissaient pas l'issue, mais ça ne les inquiétait pas. C'était la paix qui les inquiétait, qui était en eux, qui était importante. Ce n'est pas l'issue. L'issue, c'est Dieu. Nous, c'est la paix, notre responsabilité. C'est les tourments de notre âme qui doivent être apaisés. Alors maintenant, comment, donc ça c'est pour vous introduire le sujet de la paix, maintenant comment avoir la paix? Quels sont les moyens d'avoir la paix? Premièrement, je vais passer très vite parce que vous avez déjà passé cette étape, c'est la paix avec Dieu par le fait d'accepter Jésus. Ça, c'est la première chose. Paul, dans Romains 10, dit « Car lorsque nous étions ennemis, parce que notre état naturel, quand nous naissons dans ce monde, c'est nous naissons ennemis de Dieu. Nous naissons ennemis au départ parce que nous héritons du péché d'Adam et d'Ève, de nos parents, et nous devenons tout de suite rebelles à Dieu. Nous sommes ennemis de Dieu à cause de nos péchés. Le sujet le plus important de toute l'humanité, aujourd'hui et dans tous les siècles, c'est le péché. Et le problème, c'est que personne ne le traite. Il n'y a pas une université, à part les universités de théologie, dans le monde qui traite le péché. On ne veut même pas en entendre parler de ce mot-là. Voilà. Eh ben, c'est dramatique, mais c'est ça le problème de toute l'humanité. C'est le péché. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. C'est la réconciliation avec Dieu qui nous ramène dans la paix. Dans la cité de paix. C'est par la mort de Jésus, si nous acceptons par la foi cette mort pour nous, ce qu'elle a accompli pour nous, nous rentrons dans la paix parce que nous sommes réconciliés et nous sommes acceptés dans la Jérusalem céleste par Jésus. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Jésus qui est ressuscité, nous ressusciterons avec lui parce que c'est le prince de la vie. Dans Romains 5, il est dit « Étant justifiés par la foi, donc il faut exercer la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La deuxième chose qui est importante, donc la première c'est la foi. La deuxième c'est le don. La paix, elle est donnée. Elle est donnée. Parce que nous ne l'avons pas. Elle existe en Dieu et Dieu la donne. C'est un don. Une chose à comprendre, c'est que Dieu donne la paix. Elle n'est pas à mériter. Elle est à recevoir. On n'a pas besoin de faire des efforts, de jeûne et prière pendant des semaines pour l'avoir. Non. C'est simplement un don. Il faut la recevoir. La paix n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer. Fabriquer la paix. Mais c'est quelque chose qui est donné. L'apôtre Paul, dans Philémon, dit « Que la grâce et la paix vous soient données. » De la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même l'a également affirmé dans Jean 14, verset 27. « Je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. » Jésus ne donne pas la paix en échange de quelque chose, comme le monde, de l'argent ou des biens, etc. Non, il la donne. Il n'attend rien en retour. On le reçoit gratuitement. Amen. Gratuitement. Il la donne. Jésus nous a donné, vous a donné, nous a donné la paix. S'il l'a donnée, ça signifie qu'on n'a pas besoin de l'acquérir, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle est donnée. Il faut la recevoir. Amen. Troisième chose, c'est un fruit. La paix est un fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, il est question des fruits de l'esprit qui sont... Jean-Claude. Voilà. Amen, elle connaît par cœur, c'est bien. La paix est dans le fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Cela signifie que le Saint-Esprit le produit en nous. Voyez-vous ? C'est le fruit du Saint-Esprit. Jésus, il donne... Le Père, il nous donne la foi. Jésus nous donne la paix. Le Saint-Esprit produit le fruit de la paix en nous. Par conséquent, si la paix que Dieu veut me donner vient de son Esprit, il n'y a pas besoin d'essayer de la produire. C'est le Saint-Esprit qui la produit en nous. Il faut simplement laisser le Saint-Esprit me la communiquer. Et on revient à la première... Premier enseignement du TQP, marcher par l'esprit. Or, si vous avez reçu l'Esprit, le Christ, l'Esprit de Dieu habite en vous. Voyez-vous, tout ça, c'est subséquent, ça dépend du précédent. Si je n'ai pas accepté Jésus dans ma vie, je ne peux pas avoir la paix. Si j'ai accepté Jésus dans ma vie, Dieu me donne l'Esprit qui me donne la paix. Voyez-vous, donc la paix découle d'un certain nombre d'actions que je fais. Cela signifie que les fruits dont la paix fait partie habitent potentiellement en nous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous devrait être des instruments de paix. On revient à la Jérusalem terrestre. Pourquoi qu'on peut appeler l'Église? L'Église locale, parce que l'autre c'est l'Église universelle. L'Église locale, rassemblement de chrétiens, il devrait y avoir la paix. Et quand Sylvestre m'a dit ça, il a dit c'est évident, ça devrait être partout. Toutes les églises devraient connaître la paix. S'ils ne connaissent pas la paix, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un gros, gros problème. C'est qu'on n'est plus dans une église de Jésus-Christ. Je ne porte aucun jugement sur personne, mais pour moi, en tant que pasteur, si l'église n'est pas en paix, moi je me pose des questions. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et c'est pour ça que quand, en 98, on a eu des gros conflits dans l'Église, moi et Michel, on a rendu notre tablier de pasteur en disant on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas être pasteur d'une Église qui n'est pas en paix. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et après 2 mois de repentance profonde, le Seigneur nous a demandé de reprendre les choses en main, mais pour conduire dans la paix. Et pour nous, enfin Michel et moi, le critère de base, c'est la paix. Si l'Église n'est pas en paix, nous, on se remet en question. On dit, il y a quelque chose qui, chez nous, ne va pas. Pas chez vous. Vous êtes parfait, mais nous, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut pas, on n'est pas apte à conduire une Église. Conduire une Église qui n'est pas une communauté dans la paix, ça pose un souci pour le leadership, ça c'est clair. Parce que le leadership...
Vous savez ce que c'est que le leadership?
Alors ceux qui ont fait équipe, bien sûr, ils ont de l'avance sur tous les autres, donc ils vont avoir toutes les réponses. Je suis désolé pour les autres. Toutes les réponses vont être données par les gens qui ont fait équipe. C'est quoi le leadership? Il y en a 15 dans l'Église qui ont fait le leadership. Donc. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont là. Ils sont peut-être tous en vacances. Bon, c'est pas grave. Leadership, c'est quoi? C'est vrai que vous avez l'excuse que c'est anglais. Hein? Il y en a qui n'aiment pas ce mot leader. Allô? Il y en a qui veulent tenter une explication, non? Ouais. Bon, comme tu n'as pas fait équipe, c'est un peu normal que tu n'utilises pas les bons termes, mais c'est ça. C'est influencer. Tout est une question leader, une question d'influence. Leader, c'est une question d'influence. Influencer les gens. Influencer, ça veut dire que moi, j'influence. C'est-à-dire que je suis compris dedans. Je suis dans le coup. Quand je suis chef... Je ne suis pas dans le coup, c'est une fonction. Je te demande de faire ça. Je suis chef. Je suis chef. Tu fais ça. Tu m'obéis. Je suis caporal. On m'a nommé caporal. Et maintenant, tu te roules dans la boue et ce n'est pas un problème. Voilà. Ça, c'est le chef. Le leader, il est impliqué dedans. Vous voyez, toute la grande différence, c'est qu'il influence par qui il est. Hello? Vous voulez devenir leader? Pas facile, hein? Parce qu'il faut que vous soyez des modèles. Eh oui. Leadership, c'est un peu plus compliqué, c'est l'influence entre le leader et ceux qui sont leadés. Leader, parce que le leader, il a une influence sur ceux qui sont leadés, sur ceux qui sont influencés, les influenceurs, les influencés. Et ça, c'est un bon leadership, c'est un leader qui amène la paix et que la paix est le produit du résultat de son leader, de son leadership. Vous voyez, c'est les deux, c'est ce qu'on appelle la bonne communication. C'est que j'entends l'autre et l'autre écoute, et etc., etc. Et ça, c'est la bonne entente que Dieu veut dans la Jérusalem terrestre, dans l'Église locale. Amen. Le Saint-Esprit, il est là pour nous amener la paix. Et c'est pour cela, la Bible dit, soyez remplis de quoi? De l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Alors nous, pentecôtistes, on est plus forts, hein, on est non seulement remplis, on est baptisés de l'Esprit. Hein. Malheureusement, ce n'est pas dans ces églises-là qu'il y a la plus grande paix. Hein. Souvent, c'est dans, chez les frères qu'on voit plus de paix, parce qu'il y a plus de maturité. Mais il faudrait qu'on soit des leaders dans la paix, en tant que pentecôtistes. Hein. Remplis de l'Esprit, parce que l'Esprit est un Dieu de paix. Il donne la paix, voyez-vous. Et pour moi, ceux qui sont remplis de l'Esprit, c'est ceux qui produisent la paix. Ceux qui sont dans la paix, qui produisent la paix, et qui rayonnent de la paix, et qui influencent dans la paix. Et qui ramènent des fruits de la paix. Pour moi, c'est ça. Remplis de l'Esprit. Il y a trois choses de mode d'emploi pour être rempli de l'Esprit. La première, c'est la louange. C'est pour ça que je vous invite au culte de venir à la louange, pour pouvoir participer à la louange, parce que c'est ce qui vous permettra d'être dans la paix. La louange. La deuxième ingrédient de la paix, c'est la reconnaissance. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Soyez dans la joie, dans la reconnaissance, dans la grâce. Et tous les jours, eh bien, soyez dans la reconnaissance. C'est aussi un aspect de la louange, mais une louange de reconnaissance. Et enfin, le troisième ingrédient, c'est l'intersoumission mutuelle. Vous connaissez tous ce passage, parce que tout le monde a des poils qui se hérissent quand on le lit. Mais là, ils sont plus sensibles que d'autres. C'est « Femmes, soyez soumises chacune à vos maris. » Waouh! Mais le problème, c'est que ces versets-là ont été faits par un moine, je ne sais plus lequel d'ailleurs, un moine qui a fait ces... Pardon ? Gutenberg, non, c'était avant. Pardon ? La division des versets. Et le problème, c'est que ce verset, soit « Femme, soyez soumise », c'est le verset 22. Et le verset 21, il n'aurait pas dû faire deux versets, c'est un seul verset. « Soumettez-vous les uns aux autres ». Dans la crainte du Christ. Ah, ça change tout. Il n'est pas parlé de la femme et du mari. Il est parlé de tout le monde. Dis à ton voisin, tout le monde. Tout le monde doit être soumis les uns aux autres. Tout le monde. Il n'y a pas que la femme qui doit être soumise au mari, c'est le mari qui doit être soumise à la femme aussi. Hello ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est du français, là ? Je relis. Verset 20, rendez toujours... Non, soumettez-vous les uns aux autres, verset 21... dans la crainte de Christ. Soumettez-vous les uns aux autres. C'est un principe. Alors bien sûr, ce principe, Paul l'adapte dans le foyer, mais dans l'Église, partout, il faut être soumis les uns aux autres. Et ça, c'est un principe de paix. Et c'est là que j'arrive au troisième fruit, qui est la paix. Parce que voyez-vous, c'est la foi, le don de la paix, le fruit de l'Esprit qui est la paix, ça peut se vivre de manière individuelle. Un chrétien individuel sur une île déserte peut vivre ça. Il peut recevoir la paix, il peut garder la paix, il peut transmettre, enfin il peut être dans la paix tout seul. Alors, le problème commence, c'est quand on est avec une autre personne déjà. 1, 2, 3, ça se complique. 4, 5, 6, oh là là, voilà. Où est-ce que ça va s'arrêter ? Voilà, celui-là, je n'aime pas, celui-là, je n'aime pas, celui-là, voilà. Et c'est terminé, la paix a disparu. Donc, la plus grande difficulté, c'est dans l'Église. Comment est-ce que cette paix surnaturelle qui est donnée à chacun, individuellement, peut se manifester dans l'Église ? Et c'est là tout le problème. Et c'est le problème que Michel et moi, on a eu, en 98, pour dire, mais comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'il y a un moyen d'y arriver ? Alors, je vous rends la parole. À votre avis, quel est le résultat, là, que je vais mettre dans la case ? Quelle est la réponse ? Peut-être que vous n'avez jamais réfléchi, mais pourtant, vous êtes confrontés tous les jours à cette réalité. Dans l'église locale, comment est-ce qu'on peut amener la paix entre les frères ? Pardon ? La communion fraternelle, alors ça c'est le résultat, ça c'est très beau, la communion fraternelle, mais comment est-ce que j'y arrive? Comment est-ce que je fais? La prière, oui. Fraction du pain. Quoi encore? Pardon? Exercer l'amour et l'autorité. Autorité avec un bâton? Non, je ne sais pas. Pardon? Ah, c'est déjà mieux, oui. Transmettre ce que Dieu nous a donné. Alors, je vous écoute. Vous n'êtes pas très loquace, là. Enfin, si, il y a des gens qui se sont exprimés. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans la case? Là, j'ai mis foi, don, fruit. Et j'attends une réponse ici qui est biblique. Pour arriver à avoir la paix parmi les frères dans la communion fraternelle, comme on vient de l'entendre. Pardon? Avec la louange, bien sûr, la louange c'est important, mais c'est pas le seul. Oui, le pardon, oui. Pardon, très important, oui. La repentance, oui, absolument. Oui, la soumission, on vient d'en parler, absolument. Soumission. Alors, vous voyez, moi j'étais très surpris que ce que je vais vous dire là, je l'ai appris dans le monde et pas dans l'Église. Parce qu'en tant que cadre supérieur, j'ai pu bénéficier des formations qui m'étaient données et je l'ai appris dans le monde. Et oui. Et c'est dommage. Parce que même des pasteurs dans l'Église ne savent pas ça, alors que c'est écrit dans la Bible. Hein. C'est-à-dire, tous les jours on peut le lire, mais on passe à côté. La réponse, c'est là, mais moi je l'ai appris dans le monde. Et je l'applique maintenant à l'inverse. Voilà. Pardon? La clarté, oui, absolument. Clarté. Pardon? La vertu, tout à fait.
C'est la même vision.
La même vision. Je regarde là, mais je vois librairie là. Puis un autre qui a des lunettes qui voit là-bas. Jean-Claude qui est à côté, il voit des lunettes qu'il envoie là-bas. Et puis on veut avancer ensemble. Et quand tu vas arriver là-bas, en disant mais attends, où est-ce que tu vas? Tu vas à droite, tu vas à gauche? Ben oui, ben, je vais à la librairie. Ben oui, je l'ai vu là-bas, moi je l'ai vu là. Vous voyez, la vision. Et c'est quoi la vision? Ben voilà. C'est, si on n'a pas compris la vision, on a du mal à faire la paix dans l'Église. Eh bien, la vision, c'est dans Philippiens. Alors, il y a un peu trop de versets à lire, parce que je vais terminer mon message, mais c'est du chapitre 1er au verset 27. Alors, ça, c'est le point 1.27. Philippiens 27, tac, c'est la base. Jusqu'au chapitre 2, verset 13. Donc, énormément de versets qui expliquent la vision. Si on n'a pas une même vision, on ne peut pas faire la paix. Parce que, on va. Voilà. Mais seulement, dira l'apôtre Paul, je lis le 1.27, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que je vienne vous voir ou que je reste absent. Voyez-vous, l'idée, ce n'est pas qu'il y a un contrôleur comme Paul qui va venir vérifier. Il dit que je vienne ou que je ne vienne pas, peu importe. J'entends de dire. Ce qui est important, c'est le résultat. J'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement intimider. Ça, en 98, vous voyez, il y avait tellement d'ennemis qui étaient autour de nous qu'on a appris à ne pas nous laisser intimider. Et c'est ça la paix. C'est ça la paix de la petite fille, là, dans le truc. Dans un climat complètement tourmenté, et la paix. Vous êtes la paix parce que voilà, vous savez que c'est entre les mains de Dieu, vous voyez. Et ne vous laissez encore une fois intimider par les adversaires. Et c'est pour eux une preuve de perdition. Une preuve de perdition, mais pour vous de salut. C'est quoi? C'est cette vision, c'est de demeurer ferme dans un même esprit et dans une même âme. Là, c'est l'esprit. L'âme, c'est la partie charnelle, la partie humaine. L'esprit, c'est la partie de Dieu. Dieu nous donne son esprit, donne ses fruits, donne ses dons, il donne la foi pour vivre dans la paix. Mais nous, c'est notre âme. C'est d'aligner nos pensées. Et c'est ce qu'il dit dans Philippiens, ensuite chapitre 2. Il dit au verset 2, « Mettez le comble à ma joie, le comble à ma joie, » dit Paul. Et donc déjà, il a la joie. Mais mettez le comble à ma joie, parce que Paul avait le souci des églises auxquelles il donnait naissance. Et d'avoir une même pensée. La vision, ça commence à avoir une même pensée. Ayez un même amour. Ayez une même âme et une seule pensée. Il revient à la pensée, c'est extrêmement important. Et dans la vision, ceux qui ne connaissent pas la vision, ils auront l'occasion à la rentrée dans le cours de formation, dans le temps de parler, comment est construite la vision. Ça, je l'ai appris dans Le Monde. Comment on construit une vision, ben, c'est une vision qui permet d'aller dans une même direction. Et tous ensemble, pas une seule personne, tous ensemble. Ça, c'est le problème de la communauté. C'est communautaire. Là. C'est que tout le monde doit aller dans ce sens-là. Et au verset 3, qu'est-ce qu'il dit dans Philippiens ? Il dit « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. » Là, on rentre dans l'ADN. L'ADN, on le connaît, enfin, on l'a découvert que depuis quelques années grâce au microscope électronique, c'est une structure en hélicoïde sur laquelle se trouvent des informations. Et ces informations, le système, l'organisme, va suivre ces informations pour devenir ce qui était programmé au départ. C'est ça l'ADN. Or Jésus, c'est notre modèle, c'est notre ADN. Et il faut que nous ayons l'ADN de Jésus en nous, pour que nous devenions comme ça. Voyez-vous, c'est l'ADN. Et là, il est dit, ne faites rien par rivalité ou vaine gloire, mais dans l'humilité. Dans l'humilité, sur l'ADN, il y a une branche sur laquelle est greffée l'humilité. L'humilité. Et quand vous avez votre ADN produit de l'humilité, eh bien, vous êtes déjà dans la configuration de rentrer dans une même vision. Parce que vous êtes obligé, dans une vision communautaire, d'abandonner votre vision. C'est ça le problème. Et personne, naturellement conçu, n'a envie d'abandonner sa vision. Et c'est le problème des églises. C'est pour ça qu'on parle des églises de multitude. Et on a critiqué l'église catholique parce qu'au moment de Constantin, l'empereur romain, Constantin, qui était, chargé de l'empire romain, il a ouvert les bras au christianisme, bah, tout le monde est rentré dans les églises chrétiennes. Tout le monde. Mais avec des visions différentes. Avec des visions différentes, ce qu'on appelle la multitude. Comment voulez-vous faire un seul peuple avec des visions différentes ? C'est la même multitude. Et aujourd'hui, dans les églises évangéliques, on fait la même chose. On fait la même chose. Pour avoir du nombre. Puisque les gens ne se convertissent pas facilement, on ouvre les bras, on dit hey, tout le monde vient, mais on ne travaille pas la vision. Donc du coup, chacun a sa vision. Et donc il y a division. Donc il n'y a pas la paix. Ne faites rien par rivalité et par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Waouh, quel programme! Encore un coup de l'ADN là. Jésus était dans cette perspective. Considérez les autres supérieurs à vous-même. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, imaginez. Lui, le maître, il a lavé les pieds de ses disciples. Il leur a montré que lui voulait être leur serviteur. Waouh ! Comment voulez-vous pas faire la paix ? La paix ? La paix s'impose dans ces cas-là. Vous ne pouvez pas agresser quelqu'un qui est en train de vous laver les pieds, c'est votre maître qui le fait. Jésus l'a fait. Si nous, on se fait ça les uns les autres, comment voulez-vous qu'il y ait des tensions ? toutes les tensions disparaissent. Allô ? Je capte votre attention là. Philippiens 2, hein, etc., etc. Je ne vous dis pas tout. Hein. Et le bouquet final de tous ces versets, c'est au verset 13, qui me préoccupait déjà il y a 45 ans quand j'ai rencontré Michel dans le métro à Paris. J'ai dit, mais donc, je ne comprends pas ce verset, je ne comprends pas ce verset. Et ça me taraudait jusqu'à ce que je le comprenne. Et bien sûr, maintenant, c'est la base de l'ADN. Hein. C'est lequel ? C'est le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, vous obéissez avec crainte et tremblement, c'est bien. Sinon, je vous encourage à le faire, la crainte du Seigneur. Mettez votre salut en action. Mettez votre salut en action. Waouh ! Il faut faire quelque chose. Eh oui, il faut travailler. Ou en autre, d'autres traductions, dites « travaillez à votre salut ». Alors, je disais à Michel qui était à l'époque ma girlfriend, non pas ma girlfriend, la fiancée, voilà. Je disais, mais explique-moi ça, je comprends pas. Théologiquement, je n'étais pas encore très loin théologiquement, je m'étais juste en train de me convertir. Je dis, je comprends pas, pourquoi il faut travailler pour le salut? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut arracher ce verset-là. Vous voyez, je suis comme Luther, là, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est une épître de paille, là, il faut la brûler. Travaillez votre salut. Waouh, c'est quoi ça? C'est plus le salut par la grâce, ça. Moi, ça m'a choqué. Bah oui, pour l'instant, je l'ai pas arraché. Donc, il est toujours là. Mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Waouh, il en met une couche, là. Non seulement je suis présent, mais même si je suis absent, faites-le. Car, alors là, le car, j'ai rien compris du tout. Car, pourquoi car? Car, c'est Dieu qui opère en vous le vouloir. Bah, si c'est Dieu qui fait tout, j'ai plus de rien à faire, c'est quoi ce truc-là? Car, c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Alors Alfred Kuhn a bien trouvé la révélation, a dit pour la bonne entente. Et ça, c'est le problème de la bonne entente. Qui amène la paix. Et si je m'entends avec mon frère, si je m'entends avec ma femme, si je m'entends avec mon mari, plus de problème. Si je m'entends avec mes enfants, il n'y a pas de tension. Voyez, c'est la bonne entente. L'objectif, c'est la bonne entente. Si vous êtes dans la bonne entente, bah, vous avez la paix. Vous êtes dans la paix, dans la Jérusalem terrestre. Parce que l'enjeu, dans la Jérusalem céleste, il y a la paix. De toute façon, en Dieu, il peut y avoir que la paix. Le problème, c'est que tout le monde ne va pas y être. Bon. Il n'y a que ceux qui acceptent Jésus. Mais sur la Jérusalem terrestre, il y a des conflits et des tensions. Il faut arriver à la bonne entente, et c'est grâce à la vision. C'est un travail, c'est la foi et la vertu, c'est effectivement le travail du salut, travailler dans votre âme. Mais de toute façon, si vous travaillez, Dieu va vous aider, car Dieu met en vous le vouloir le faire. Donc déjà, il l'a fait d'avance. Donc en fait, c'est une collaboration entre moi et Dieu. C'est le principe de la collaboration. Le principe de la collaboration, il est là. La synergie, il est là. Les gens du monde ne l'ont pas découvert. Moi, je l'ai appris par le monde, heureusement. Et après, j'ai creusé dans la Bible. J'ai dit, bah oui, c'est dommage qu'ils ne le savent pas. Mais le problème, c'est que l'Église ne le sait pas non plus. À partir du moment où on a la bonne vision, on a une vision. Donc, on aligne nos pensées sur la même chose. On aligne nos sentiments sur la même chose. On exerce l'humilité parce qu'on dit, bon, ma vision, voilà, j'ai reçu ça dans mon passé, je le mets de côté et je m'aligne sur la même vision. Et ça y est, la paix, elle est là. Vous avez pigé? On reviendra dessus et surtout à la rentrée, on aura des formations de membres parce que l'idée de passer de la congrégation à l'association, c'est de comprendre ça, justement. Parce qu'on veut la paix. Mais la paix, ce serait trop simple si elle existait comme ça dans l'Église par enchantement. Elle existe, mais quand on y travaille. Quand on y travaille. Travaillez à votre salut. Travaillez à cette vision. Travaillez à cet ADN. Travaillez à cette bonne entente. Travaillez à cela. Alors, bien sûr, la communication est à la base. La communication, c'est échanger. Je dis, j'écoute ce qu'il dit. Ah ben non, je rectifie. Et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça, c'est supposé être fait, bien sûr, dans un couple, mais aussi avec les enfants. Mais très souvent, il y a de la manipulation derrière tout ça. C'est-à-dire que, comme on ne veut pas abandonner ses idées, on veut imposer nos idées à l'autre. Donc on le manipule pour qu'il ait son idée. Ben, ça ne marche plus. La personne qui découvre qu'il est manipulé, voilà, c'est la tension qui revient. Vous, la vraie paix, c'est quand on abandonne sa dignité, et qu'on rentre dans l'humilité, et qu'on dit « Seigneur, je veux adopter ce que tu as donné à cette église dans laquelle je suis pour marcher dans cette direction ensemble, soumis les uns aux autres, sur la même base, dans une clarté, dans un droit, pour ensuite exercer l'autorité. » Amen. Prions un instant. Seigneur, nous te remercions parce que tu es prince de paix. Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence, tu nous la donnes, mais tu nous demandes en même temps d'y travailler, pour que, Seigneur, ensemble, nous puissions avancer. Merci pour le résultat de ce travail, Seigneur, que tu as fait depuis des années dans cette Église. Mais tu veux continuer avec les nouveaux, avec ceux qui se rajoutent, Seigneur, afin que ce ne soient pas des pièces rapportées, mais que ce soient des pièces en communion avec. Seigneur, c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle, la koinonia. La communion fraternelle, c'est de mettre les biens en commun, et pas chacun qui garde les choses pour soi. Seigneur, tu nous demandes cela et nous te prions, tu nous donnes à chacun d'entre nous à continuer cette marche et aux nouveaux qui viennent de les emprunter afin que cette paix soit palpable, perceptible et transmissible à d'autres, Seigneur, afin que cette Jérusalem qui est dans le ciel puisse s'établir sur la terre et que tu puisses poser ton pied, Seigneur, dans ce lieu où il y a la paix. Parce que, Seigneur, ton esprit est un esprit de paix. Et il transmet la paix. Sois béni, Père. Sois loué.